Bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Emmanuel, je suis connu sous le pseudonyme de Manu 1400, et en fait j'ai choisi de vous parler des contraintes sur Wikidata. Alors sur Wikidata, en fait, vous avez deux types de contraintes. Déjà, qui, par main levée, a déjà utilisé Wikidata? Ok. Qui a déjà vu les contraintes dans la... Ok. Vu dans le sens aperçu des contraintes. Ok. Donc en fait, vous avez des propriétés dans Wikidata. Ça, je pense que normalement, les gens ont à peu près vu qu'il y avait un paquet de propriétés. Beaucoup de propriétés concernent des identifiants. Et concrètement, par exemple, un identifiant, c'est un format particulier avec un certain nombre de caractères, etc. Donc ça, c'est ça, vous avez une propriété, enfin, dans la liste de la propriété. Des éléments sur la propriété, vous avez effectivement le format qui est renseigné. Le seul truc, c'est que parfois on veut aller un peu plus loin que vérifier juste le format de là. On veut par exemple détecter des informations qui sont manquantes ou des erreurs. Je vais vous donner un exemple. On sait à peu près la taille de l'être humain le plus grand. Et si vous proposez qu'il y a un être humain qui a 30 mètres de haut, à mon avis, c'est qu'il y a une erreur. Donc on va voir justement ce genre de choses et je vais le faire sous forme d'un atelier. Donc n'hésitez pas à participer. N'hésitez pas à sortir votre ordinateur ou aller voir avec votre voisin. Ordinateur, tablette. Alors, ici, ce que j'ai fait, j'ai été dans la barre de recherche de Wikidata tout en haut, j'ai tapé P deux points et j'ai tapé effectivement le mot-clé hauteur pour trouver la propriété qui concerne effectivement tout ce qui est les hauteurs. Donc ça peut être la hauteur d'un bâtiment, la grandeur d'un être humain, etc. Et en l'occurrence, il y a des bandeaux, une sorte de bandeaux ici, avec un certain nombre de vérifications. Donc en gros ici, ça c'est une requête en Sparkle, donc ça ressemble à du SQL, c'est une sorte de SQL un petit peu modifié, avec du coup, si cette requête-là ressort un élément Wikidata, cet élément-là Wikidata, il y a de fortes chances pour qu'il ait un problème, soit une information qui est manquante, on va le voir tout à l'heure, soit une erreur, par exemple. Une confusion d'unités, par exemple un anglophone qui n'a pas vérifié, mais quand il a copié-collé, etc., il a mis mètre au lieu de mettre effectivement une autre unité. Et l'idée en fait de cet atelier-là, c'est que vous soyez en capacité de découvrir un petit peu comment on fait ce genre de. On rajoute ce genre de choses. Donc en l'occurrence, c'est un bandeau qui est rajouté, qui s'appelle Complex Contraint en anglais. Et sur lequel on met un titre, on met une query, donc en l'occurrence une query plus ou moins longue. Voilà, il y a une. Je vous invite à. On va voir qu'en fait il faut juste éviter les timeouts, donc des requêtes qui prendraient trop de temps à être exécutées par le serveur. Et on va commencer avec une requête la plus simple possible. On va demander la liste des chats sur Wikipédia. Alors, est-ce que vous avez déjà fait ça, de lancer une query, un exemple de query Alors, il y a un certain nombre on va aller sur. Je vous invite à aller sur. Ça s'appelle. Je ne sais pas si vous voyez bien, je peux mettre peut-être en plus gros. Ok. Wikidata.org. Et normalement, vous avez arrivé sur cette interface-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette interface-là, elle est finie d'être chargée quand le bouton ici devient bleu. Voilà, c'est un petit détail. Et en l'occurrence, vous allez dans les exemples. Et on va prendre le premier exemple. Donc, ça s'appelle cat ou chat. Si vous pouvez mettre votre interface en français, si vous êtes sur un ordinateur en anglais. Ici, et en fait, là, vous avez un commentaire. Donc le commentaire, il est facultatif. Hein, c'est tout ce qui commence par un dièse, il s'affiche en gris, et en l'occurrence parce que c'est un commentaire. Et après, il y a un select, un where, une clause ici. Et en l'occurrence, cette ligne-là, elle est facultative. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une requête qui nous retourne au moins un élément pour voir en premier. Donc je vous invite à l'exécuter. Donc on a dit donc aller dans exemple, sélectionner une requête, donc par exemple chat. Donc vous cliquez pas sur le, vous cliquez sur chat et pas sur le petit crayon, vraiment sur chat. Et la requête s'affiche, on la lance. Alors normalement elle s'exécute assez vite parce qu'il y a très peu de chats sur Wikidata. Alors on a un chat astronaute, pour ceux qui sont, enfin au moins un chat astronaute. D'ailleurs on va, je vous propose, on va sélectionner le chat astronaute. Oui, il y a des, on a envoyé en fait, il n'y a pas que les ICA qui étaient dans l'espace. Donc la bonne pratique quand vous développez une requête, c'est éventuellement de rajouter en fait un petit commentaire sur chaque ligne, dans le sens où ça parle pas à beaucoup de gens. En l'occurrence ici, ça veut dire je veux un, tous les items qui contiennent, qui sont en fait un chat. Ça c'est la propriété de base que vous trouvez, qui, et vous avez, si vous passez la souris au-dessus, vous avez effectivement nature de l'élément qui s'affiche. Pareil pour ici, pour le chat. En l'occurrence un chat domestique, c'est encore plus précis. Et donc, est-ce que vous avez une petite idée sur comment on fait pour demander un chat qui soit astronaute ? Ouais. Alors, on va le faire. Je vous invite à le faire en même temps. Alors, il y a deux façons de le faire. Je vais vous montrer la première. Donc, je vais commenter en même temps. Le point d'interrogation, en fait, ça permet, c'est un peu le variable dans un langage de programmation. Donc là, il vous propose effectivement le item parce que vous l'avez déjà fait, la variable item. En l'occurrence, on va mettre effectivement le WDT, deux points. Là, on a l'autocomplétion avec CTRL espace. Et du coup, je vous invite à utiliser ça parce que tout le monde, enfin, il y a énormément de propriétés sur Wikidata. Et là, en l'occurrence, on veut occupation. Voilà. Donc. Si j'avais mis métier, je pense que ça passerait. Voilà, oui, il y a un certain nombre d'alias qui sont présents. Pareil, WD, deux points, CTRL, espace pour avoir l'autocomplétion. Et le, du coup, on va rechercher astronaute. Astronaute. Ok. On met un point à la fin, et en l'occurrence, si je joue la requête, j'ai mis quoi ? J'ai mis occupation, j'ai quoi ? Un chat, je vais mettre avec un chien, je sais qu'on a un chat sur Wikidata qui est un chien, ok. Donc on a bien des chiens qui nous sont remontés. En l'occurrence, c'est pas astronaute. Et, c'est ok. Parce qu'on a fait. Ok. C'est animal dans l'espace, c'est ça ?
Oui, c'est animal dans l'espace.
Ok.
C'est une place de l'animal.
C'est le. Ok. Alors, moi, il y a un truc que j'aime bien utiliser comme fonctionnalité. Bon, là, on est sur une wiki base. Donc, c'est un mélange entre une base de données et un wiki. Et en l'occurrence, on retrouve la fonctionnalité qui existe dans Wikipédia, à savoir les pages liées. Sur le côté, là, sur mon pointeur, et juste ici. Vous avez, alors je vais l'agrandir un tout petit peu pour que tout le monde voit bien. Là, c'est mieux. Ok. Quelles sont les pages liées ? Et en l'occurrence, ça nous permet de retrouver effectivement des utilisations, donc pas que avec la propriété P31, pas que avec nature d'élément et sous-classe, mais aussi dans d'autres parties qui seraient utilisées, par exemple, en qualificateur ou pour des choses plus compliquées ou. Voilà, genre avec un rôle là, et en l'occurrence, là, il y a bien Félicette, j'avais mal orthographié, qui effectivement comme occupation c'est animal dans l'espace, mais avant c'était effectivement c'était astronaute. Bon, je préfère jouer astronaute, mais bon, bref. C'est... Je ne vais pas faire de blague sur c'est français. c'est bien, c'est parce que c'est français. Ce serait gênant. okay. Il y a une autre façon de la faire, cette requête-là. C'est que si vous n'aimez pas, vous répétez. Au lieu d'un au lieu d'un point, vous mettez un point virgule et vous enlevez le item. Parce qu'en fait, comme c'est deux fois la notation raccourcie, c'est ça. Ou avec des crochets, c'est la troisième possibilité pour les gens qui... je crois qu'il y a peut-être pas ici, les crochets, c'est pour les qualificateurs. Ok, et si vous aimez encore moins avoir une requête encore plus courte, vous pouvez enlever le where, la clause where qui était en rouge, et vous voyez, ça marche aussi. En fait, ça, on va pouvoir le copier-coller directement, effectivement, ouais, dans le modèle. Et par exemple, si on considère que c'est pas normal d'avoir un chat qui est dans l'espace, on peut le mettre comme une requête complexe. Est-ce que vous avez des idées de... Est-ce que vous avez déjà, par exemple, vu des anomalies dans Wikidata qui potentiellement pourraient être détectées automatiquement? Des anomalies, je sais pas, quelqu'un qui a 30 mètres. Parce que, en fait, à la base, j'avais détecté à un moment donné, il y a quelques années, un certain nombre d'erreurs qui se passaient. Parce qu'effectivement, quand on a beaucoup de données, forcément, statistiquement, il y a des petites coquilles qui se passent. Il y a aussi des coquilles qui viennent de Wikipédia. Donc c'est l'intérêt en fait. C'est un des arguments que j'ai pour défendre Wikidata auprès de gens qui sont un petit peu contre, des Wikipédiens qui sont un peu contre, c'est que j'arrive à détecter des erreurs et à les corriger grâce à effectivement un peu de travail de programmation. En l'occurrence, c'est la programmation qui a l'avantage d'être dans un seul langage. Là c'est du Sparkle pour. Je vous propose, dans ces cas-là, on va reprendre le...
Moi, les deux anomalies que j'ai aimées le plus, le premier, c'est les gens qui ont comme nationalité quelque chose qui n'est pas un pays. Par exemple, j'ai vu quelqu'un qui avait comme nationalité Algérie, mais Algérie pas comme pays, mais Algérie comme croiseur, le bateau. Donc, c'était assez marrant dans l'infobox. Et un autre truc, c'est aussi les gens qui sont nés ou meurent dans les endroits qui n'existaient pas pendant leur naissance. Donc là, pour le coup, aussi, c'est assez rigolo dans l'infobox parce que du coup, ça essaie de récupérer le label pour quelque chose qui est avant la création de l'élément. Et d'habitude, ça donne le bordel pas possible.
Je vais essayer de réagir à ça. Il se trouve que c'est assez commun d'avoir ce genre d'erreur. Parce qu'en fait, il y a des gens qui utilisent par exemple des outils de réconciliation comme OpenRefine, où concrètement, s'ils cochent la mauvaise case, effectivement, ils vont tomber sur le mauvais élément. En l'occurrence, OpenRefine donne un score de possibilité. Enfin, par exemple, il va dire je suis sûr à 99% que c'est ça. Et malgré le score élevé, parfois, il peut y avoir des erreurs. Concrètement, les erreurs que tu as dit, c'est des erreurs qui sont déjà effectivement identifiées avec des contraintes, les contraintes qui sont ici, qui sont en blanc. En l'occurrence, il y a des contraintes de similarité, une contrainte de similarité qui repère en fait des gens effectivement qui sont nés à une époque où leur pays de nationalité n'existait pas. Alors ça peut être un peu compliqué. Les questions de est-ce que, c'est-à-dire qu'il y a des faux positifs. Je vous explique un truc, c'est qu'un bâtiment, par exemple, il peut être détruit puis reconstruit. Alors et concrètement, par exemple, une abbaye, elle a parfois deux dates de fondation, avec genre le 13e siècle et le 15e siècle. Là où un pont peut effectivement avoir eu trois versions. Et par exemple sur Wikidata, il existe avec en étant un seul élément, Parce que tout le monde considère que c'est un seul élément. Voilà, est-ce que personne s'est jamais posé la question combien de fois il y a eu le Pont Neuf à Paris là, ou, non, mais en l'occurrence, je ne sais pas si c'est une version ou pas, mais quand on consulte des bases de données, par exemple la base de données d'architecture Structurae, eux, pour certains ponts, ils ont trois éléments. La version U de 1907, la version après la guerre, voilà, et puis une troisième version. Voilà, parce que parfois, en fait, le pont, il a été, on a fait pour, on l'a agrandi, et au lieu, en fait, du coup, on a détruit l'ancien pont en faisant un nouveau pont 10 mètres plus loin. Du coup, c'est pas les mêmes coordonnées GPS. Alors, ça peut être intéressant d'avoir deux éléments sur Wikidata avec remplace, etc. Justement, les contraintes actuelles en blanc nous permettent déjà de trouver, d'améliorer notre compréhension du monde et effectivement de détecter des problèmes. Et dans l'eau, il y a des faux positifs avec du coup des exceptions qui sont possibles. Je ne sais pas si vous avez déjà rajouté une exception. Non ? Bon, bah, on va pouvoir. Je vais vous montrer. Donc, dans l'onglet, le premier onglet, ici, en l'occurrence. Je ne suis pas identifié, mais en fait, ici, il y a une exception. Il y a deux exceptions. C'est-à-dire que ici, Hello Kitty. Allez voir sa hauteur. Hop. Voilà. Alors, déjà, en fait, elle a une masse, par exemple, qui est estimée avec des pommes. C'est pas une unité habituelle. Et du coup, ça va être mis en exception. Parce que un être humain, si vous me donnez sa masse en pommes, je considère que c'est une erreur. Dans le cas d'Hello Kitty, visiblement, c'est la seule information qu'on ait. Et du coup, on préfère mettre une exception. Pareil, la taille de 5 pommes de haut, il n'y a que dans les comptes et des trucs anglais là pour. Donc en fait, voilà, il y a une exception les exceptions sont possibles. Les seuls cas où on ne peut pas mettre une exception, c'est quand la contrainte elle est mise comme obligatoire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des contraintes obligatoires. Parfois, effectivement, toutes les contraintes obligatoires, en théorie, il n'y a pas de, on met pas une exception. Donc, si vous avez besoin de mettre une exception, soit c'est une erreur de mettre une exception, soit effectivement, faut enlever effectivement l'information comme quoi c'est une contrainte obligatoire pour que ça marche. On va essayer de reprendre un petit peu le ici. Alors, je vais vous montrer, je vais prendre une requête un petit peu plus compliquée. Là, je ne vais pas l'expliquer, je vais juste montrer qu'en fait, on peut faire des choses un peu plus compliquées que juste sélectionner de l'information, enfin une information un peu brute. On peut réellement fouiner dans la base de données. Concrètement, par exemple, je peux demander tout des trucs qui sont des objets. C'est-à-dire qu'avec P31 et sous-classe de l'élément avec l'opérateur étoile, avec un slash et puis. Je vais le taper comme ça sera peut-être plus simple. Hop. Enfin, si on le voit ici. Ici, quand vous utilisez. Hop. Si en fait je mets cette syntaxe là, en fait je vais arriver à sélectionner tous les éléments qui ont soit par exemple ici tous les êtres humains ou toutes les choses qui sont en fait qui ont, sont un être humain parce qu'ils sont dans l'arborescence grâce à ou sous classe qui sont un être humain. Concrètement par exemple ici si je mets à la place d'être humain objet. En fait, un bateau, ça va être effectivement un objet, donc on va réussir à l'obtenir comme ça. Ne le faites surtout pas parce que là, ça va être beaucoup trop large, mais bien souvent, on a besoin de ce genre de syntaxe pour avoir plusieurs sous-classes, en fait, enfin, plusieurs éléments qui viennent de sous-classes. Je ne sais pas si c'est très clair ou pas. Il faudrait que peut-être je passe un exemple. J'en ai plus de 500 là. J'ai demandé en fait toutes les tables qui étaient dans la base de données. Donc en fait, en l'occurrence, avec quelque chose qui serait un truc un peu plus spécifique que juste le concept table, mais qui serait quand même une table, je l'aurai ici. Je vais faire l'expérience suivante. Je vais retirer cette partie-là. Donc là, j'en ai 533. Ça n'a pas changé. Ok. Faudrait que je prenne un autre concept. Un truc. Est-ce que vous avez une idée dans quelque chose d'un peu spécialisé? Un accélérateur de particules, si tu veux. Ok, donc effectivement, un accélérateur de particules, j'en ai 32. Ouais, mais pour le coup, enfin, pareil, j'ai pas un modèle particulier. Je devrais peut-être mettre genre astronaute, parce que parfois il y a genre cosmonaute ou des choses comme ça qui pourraient exister, genre en suivant la nationalité, qui n'aurait pas du tout la même information. On va revenir quand même sur les contraintes complexes ici. Donc en fait, je dois vous rassurer sur un truc. Ici, ça paraît assez barbare, parce qu'effectivement, bon, c'est parfois il y a des requêtes qui peuvent être assez longues, etc. Bon, elles sont appelées requêtes complexes, mais je sais que ça fait fuir beaucoup de gens. En fait, elles sont appelées requêtes complexes par rapport aux autres requêtes en blanche, qui sont juste déclarées avec effectivement de la base de données ou un autre modèle un petit peu plus simple. En l'occurrence, ici, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce qui est quand même cool, on peut mettre beaucoup filtrer les faux positifs avec ceci. Donc on a effectivement la même fonctionnalité que le exception qu'on a vu tout à l'heure. Sachant qu'en fait, on peut mettre par exemple 40 exceptions. Ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé d'avoir genre 40 exceptions. Bah, ça pourrit pas en fait la page de l'autre côté. À savoir que la page de l'autre côté, en fait, les requêtes, généralement, il n'y a pas autant d'exceptions. Et en l'occurrence, j'utilise la requête, c'est ce modèle-là aussi, comme je vous avais dit, pour détecter des informations manquantes. Concrètement, par exemple, un basketteur, généralement, sa taille, elle est connue dans d'autres bases de données. Donc quelqu'un qui a un identifiant qui est lié à une base de données du basket, généralement, le site en question donne sa hauteur, enfin sa taille, pardon, en français. Et donc ça permet en fait de détecter des erreurs, enfin de l'information manquante.
Mégalith pour les sous-classes et classes, ça marche.
J'avais pas pensé effectivement à ce genre de cas où en fait on a des concepts effectivement imbriqués, avec effectivement c'est quoi, c'est suivant le fil à pierre, allez.
Mégalith, c'est l'ensemble de ces grosses pierres. Puis après, on peut avoir des dolmens, on peut avoir des menhirs, on peut avoir des je sais pas quoi, enfin, etc. Mais tout ça est compris dans cette grande catégorie mégalith. Donc on peut chercher tous les mégalithes, mais aussi tous les dolmens, machin truc, qui sont de sous-classe de mégalith.
Un peu comme pierre et pierre taillée. Du coup, pierre taillée, c'est une pierre. Mais... Ok. Est-ce que vous avez une idée de requête d'informations manquantes dans Wikidata qui pourraient être comme ça détectées?
Les individus dont on précise que c'est l'épouse d'eux, mais que l'inverse n'est pas précisé.
Les élections où on n'a pas le nombre d'électeurs.
C'est peut-être un bon exemple. Après, concrètement, par exemple, il y a beaucoup d'élections où tu commences par avoir le vainqueur qui est estimé ou qui voilà, avant d'avoir exactement le nombre d'électeurs précisément. Par exemple, le Conseil constitutionnel, il met quand même 10 jours ou 15 jours pour donner le vainqueur en France, pour l'élection présidentielle.
Une entité géographique dont on n'a pas les coordonnées.
Les pays anciens, quand ils remplacent un ancien pays, il y a la contrainte de faire la réciprocité.
Ça, tu l'as déjà tout de base, en fait, parce que en fait, quand tu utilises « remplace », tu as automatiquement, que ce soit un pays ou autre, la contrainte de savoir, enfin, de mémoire, d'avoir la propriété opposée, remplacée par, en l'occurrence. Moi, j'ai un exemple. Est-ce que vous connaissez le point Nemo? Tout le monde? Ok, donc du coup je vais l'expliquer très vite. De mémoire, le point Nemo, c'est un point où il n'y a personne. En l'occurrence, c'est un endroit où franchement, y a 1500 km autour où c'est de la flotte, où il n'y a personne. Et du coup, si vous avez une coordonnée GPS qui est à proximité du point Nemo, genre dans les 300 km, c'est une erreur. Vous avez confondu latitude et longitude. Le point Nemo, on va l'afficher, l'article sur le point Nemo. En gros, ils ont mis une bouée et il n'y a rien autour. C'est ça. Alors, le jour où il y a un chapter dans ce rayon-là. Bon, là, c'est pas très habitable. Là, on a flingué la couche d'ozone par ici. N'y allez pas. Et en l'occurrence, j'ai fait cette requête-là. C'est pas très compliqué. C'est-à-dire que le point Nemo, les coordonnées sont connues. On demande juste de lister. Il y a une page d'aide, effectivement, qui explique le petit bout de code qu'on a besoin en Sparkle pour effectivement faire demander, ça s'appelle un radius, tous les éléments qui sont dans ce cercle-là. Et en fait, ça va checker tous les éléments dont on a des coordonnées GPS. Donc on a un paquet. Et si c'est là-dedans, ça apparaît automatiquement dans le rapport qui concerne les coordonnées GPS. Donc c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a un robot qui passe, qui joue les requêtes à peu près tous les jours, enfin normalement tous les jours, et qui met à jour du coup le rapport. Donc on peut s'abonner à la page, en mettre en favori, en liste de suivi, les pages de propriété qui nous intéressent. En l'occurrence, c'est une sous-page, donc ça permet de suivre juste. On suit du coup plusieurs requêtes, plusieurs compos là, mais généralement il y en a quoi, 1, 2, 3, 4 grand maximum, statistiquement. Et ça permet de détecter des erreurs en fait.
Dans le même genre, toutes les coordonnées GPS au point 0, 0. Je m'en doute.
En l'occurrence, quand on importe un jeu de données, ça arrive que des informaticiens ou des non-informaticiens choisissent de mettre 0, 0 dans un fichier Excel, en se disant bon bah tout le monde va comprendre que c'est pas des coordonnées, sauf que quand on l'importe dans Wikidata, ça permet effectivement de détecter ce genre d'erreur. Quand je dis erreur, c'est au sens large, hein. Des trucs parfois non volontaires, totalement involontaires mais qui peuvent perdurer. Tout le monde va pas aller voir toutes les fiches le Wikidata, il y en a énorme, 83 millions un truc. Après, sur les coordonnées GPS, normalement, il y a très peu de contraintes. On a cité sans doute les rares contraintes qui existent. Il y a une contrainte qui serait possible, mais avec autre chose que du Sparkle, c'est de vérifier si c'est dans l'eau ou pas. C'est-à-dire que généralement, la plupart des coordonnées GPS sont quand même, à part des bouées ou des choses comme ça, il y a des bouées stables faites par les scientifiques, mais généralement, c'est plutôt sur des terres immergées. Mais c'est-à-dire, après, c'est là où on rentre dans la programmation pure. Il y a une librairie qui s'appelle ISASI, si ça vous intéresse, mais elle n'est pas très précise parce que les côtes, c'est compliqué à savoir où sont les côtes. Pas d'autres idées de choses. Après, quand vous savez faire des requêtes Sparkle, ça permet aussi, pour ne serait-ce que pour vous, sans le mettre dans les comme requête, enfin comme comme une requête complexe, contrainte complexe, de lister effectivement des informations que vous aimeriez bien avoir. Par exemple, imaginez vous voulez avoir toutes les femmes qui ont plus de 10 articles dans 10 Wikipédia différentes, mais sur lesquels en fait il y a très peu d'infos. Ça, vous pouvez le demander. Vous pouvez en fait compter dans la base de données le nombre d'informations qui sont présentes. À savoir que par exemple, même les identifiants, ça compte comme une information supplémentaire. Et en gros, par exemple, quelqu'un qui aurait 10 articles Wikipédia dans 10 Wikipédias différentes, mais qui aurait que 5 éléments, 5 informations, ça ferait vraiment très très peu. Ça permettrait par exemple de détecter du vandalisme potentiel, un article qui vient d'être, qui est assez frais sur Wikidata, en l'occurrence une personnalité qui émerge, sur lequel en fait ça peut être intéressant d'avoir des informations supplémentaires. Oui, quand je dis détection d'erreur, ça fait aussi détection du vandalisme aussi. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir?
Oui, alors du coup, tu m'arrêteras si tu penses que ça ne rentre pas tout à fait dans le sujet. Alors, je vais essayer de faire rapide. Il y a des institutions françaises qui souvent changent de nom, fusionnent, etc. Donc l'article de Wikipédia parle de l'institution, mais qui est le résultat de plusieurs fusions. Quand j'ai voulu modifier l'élément Wikidata, j'ai obtenu une erreur lorsque j'ai voulu changer le site internet, puisque le site internet a changé. Ça, est-ce que c'est une contrainte forte, une contrainte faible? Ça te dit quelque chose dans Wikidata?
En fait, le truc, c'est que le nom déjà d'un article dans Wikipédia, c'est pas forcément le nom, enfin en tout cas le titre de la page, c'est pas forcément le dernier nom de l'institution. Par exemple, imaginez, tout le monde connaît le ministère des transports. S'il change de nom tous les 4 matins et que en fait il prend un nom vraiment à rallonge, ou par exemple Paris-Bercy, la gare de Paris-Bercy a un nom super à rallonge. Sur Wikipédia, on prend en fait le nom le plus connu en fait. Par exemple, pour un homme politique, on va prendre son pseudonyme parfois, enfin le nom sur lequel il est connu, qui peut être un pseudonyme, plutôt que son nom de naissance. En l'occurrence, pour répondre précisément à ta question, sur Wikidata, on va avoir parfois plusieurs sites web. On va avoir l'ancien site web, le nouveau, avec effectivement une information qui nous dit « ça, c'est le dernier, prenez-le » avec le « preferences », enfin « à préférer ». Parce qu'on garde en fait l'information, alors que sur Wikipédia, on s'en fout de savoir quelle était l'URL du site il y a 10 ans ou il y a 3 ans, si le ministère il change de site, etc. Au contraire, sur Wikipédia, on aime bien conserver des anciennes informations parce que ça nous permet de faire du matching, ou ne serait-ce que de reconnaître l'élément. Concrètement, par exemple, si dans la recherche de Wikidata, si vous tapez le nom d'une URL, le nom de domaine de tout un tas d'institutions, vous arrivez à les retrouver. C'est très pratique, par exemple, quand vous connaissez pas vous arrivez dans un site web d'une langue que vous parlez pas, vous comprenez pas s'il s'agit d'une municipalité, d'une institution ou une ONG, vous n'hésitez pas à utiliser cette astuce-là, d'aller regarder dans la barre de recherche, de taper le nom de domaine, donc point quelque chose, pour retrouver le QID, etc. Vous aurez tous les éléments sur le. Je l'utilise au quotidien.
Euh,
Est-ce que tu peux dire un mot sur quand est-ce qu'une contrainte est obligatoire et quand est-ce que c'est une recommandation? C'est-à-dire que tu sais, il y a des fois, tu ne peux pas rentrer quelque chose parce qu'on te dit niette, ça ne respecte pas la contrainte. Et il y a d'autres fois où on te dit attention, tu sais, tu as un petit drapeau en disant attention, là, il y a un problème, mais on te laisse le rentrer, quoi. Dans quel cas c'est l'un ou l'autre?
Je te remercie beaucoup pour la question. Parce qu'effectivement, je n'ai pas précisé ça. C'est un élément un petit peu compliqué. En fait, tu as des éléments qui n'ont pas de contraintes du tout. Par exemple, une propriété qui vient d'être créée, généralement, elle a très peu de contraintes, ce qui permet de les remplir, etc. Au bout d'un moment, des gens comme moi rajoutent des contraintes simples en blanc pour ne serait-ce que détecter des cas où en fait la propriété devrait être un petit peu précisée, des cas où il faudrait utiliser une autre propriété nouvelle, etc., pour un petit peu cadrer les choses. Donc ça, en fait, vous avez le point d'exclamation, vous avez un autre symbole qui est un symbole d'orage, et là, quand c'est une contrainte qui ne souffre d'exception, là. Et vous avez aussi l'élément encore plus au-dessus qui est un filtre qui empêche de contribuer. Là, c'est très rare par rapport à l'ensemble des... Là, mais concrètement, peut-être que si on... Alors pour une date de naissance, on peut mettre vraiment n'importe quoi parce qu'on a des personnages des personnages de fiction. Donc en fait, il y a des gens qui sont nés et puis ils ont fait un voyage dans le temps, alors ils sont morts avant d'être nés, très mauvais script, mais il y a quelques cas où on a un filtre anti-abus, j'ai plus l'information là, mais en gros les filtres anti-abus, il y en a, je crois, peut-être 300 grand maximum là, sur des trucs très particuliers. Imaginez par exemple le nom d'un site qui serait où il y a eu énormément de vandalisme et où les gens ont essayé de mettre ce site-là partout, il y aurait un filtre spécifique là-dessus. Mais c'est les filtres anti-abus, c'est soit pour des trucs où on a eu justement des abus, soit pour des erreurs qui sont vraiment tellement manifestes que c'est vraiment impossible de... Mais même certains filtres anti-abus, on peut, si on reclique une fois sur sauvegarder, poster l'information.
On a vu là comment, ajouter une contrainte complexe, mais en fait, sur l'élément, comment on voit qu'elle a été, déclenchée, et est-ce que c'est compréhensible, la correction qu'on doit avoir.
Alors, le truc, c'est qu'en fait, les requêtes complexes, quand même, mettent du temps à être jouées. Jouer, c'est être exécuté, pardon. Il y a certaines requêtes, elles mettent presque une minute pour être là, et en fait, comme il y en a peut-être 3000, etc., elles peuvent pas être jouées, elles peuvent pas être exécutées en direct. En tout cas, pour l'instant, elles sont pas exécutées en direct. Du coup, vous avez pas cette information-là à la contribution. Et en fait, c'est pas plus mal parce que parfois, il y a ces défauts positifs. Il y a des faux peu fins là, et en l'occurrence aussi, la plupart des gens ne comprennent pas du Sparkle, donc ne sont pas capables d'aller remodifier la contrainte en question pour faire des exceptions, pour affiner la contrainte. Il y a des requêtes complexes où il y a parfois 3000 choses qui remontent, et dans l'eau, il peut y avoir 50% de faux positifs, parce que la requête elle n'est pas encore totalement finie. Voilà. Malheureusement, pour l'instant, elle est pas. Ça remonte dans un rapport qui est une page. Voilà. Si vous contribuez sur un élément, quand vous allez dans page liée, le petit truc que je vous ai montré sur le côté, vous allez le retrouver. Donc, si vraiment vous avez fait passer une heure pour créer un élément Wikidata, vous pouvez cliquer sur page liée et vous l'aurez automatiquement. Enfin, vous l'aurez quand la requête elle est exécutée, donc le lendemain, etc. Voilà. Mais effectivement, pour l'instant, le serveur, enfin, le parti technique, on a cette limitation-là, qui est que les trucs ne sont pas joués en direct.
Alors, Alors, je ne sais pas si c'est une contrainte, mais donc Zvezdochka, qui est la dernière chienne du programme soviétique spatial, qui est le dernier chien dans l'espace, quand on va sur sa, sur la fiche, dans la translittération, il n'y a pas la translittération en cyrillique. Donc ma question, c'est, est-ce qu'on peut faire une requête, et je ne sais pas si c'est pertinent ou pas, hein, qui, pour tout personnage japonais, chinois, coréen, etc., et si la, si la translittération existe, est-ce qu'on peut être affiché? Enfin, vous voyez ce que... Enfin, voilà, il y a une information manquante en fait. Et peut-être qu'elle existe quelque part en fait, mais voilà. Est-ce que...
Je vais faire la chose suivante, je vais le faire en live. Voilà. C'est-à-dire que comme ça, ensemble. Donc on a dit, on veut. Bon là pour l'instant on va vous, on va prendre l'exemple en question. On parle de un chat ou un chien? Un chien. Ouais, je vais prendre tous les chiens. C'est vraiment dans la nature de l'élément, c'est chien ou c'est autre chose? Okay. Donc on a deux possibilités. On a filter not exist. Pluriel, là où on a une autre possibilité. C'est translittération qui te manque comme propriété ou romanisation selon la méthode de translittération? Et en l'occurrence, elle a une nationalité ou enfin ou... Ouais, okay. En l'occurrence, ce que je voulais vous montrer, c'était le filter not exist. Avec, en l'occurrence, du coup, on demande des qui donc tout est là. Et en fait, ça nous permet de filtrer. Et en l'occurrence, on va demander effectivement qui n'est pas la romanisation, la propriété romanisation. Et là, en fait, c'est l'équivalent de d'un joker, dans le sens où ici au lieu de mettre un WD avec une valeur précise, comme ici c'est vraiment NAPA, ça va servir de entre guillemets de joker. Donc il y a filter not exist et puis il y a not having de mémoire qui existe, et l'un est un peu plus performant que l'autre et fonctionne pas tout à fait pareil. Tu l'as testé ou... on a filter not exist et on a aussi le not having qui existe aussi. Comme je disais très rapidement, les deux ne fonctionnent pas tout à fait pareil. Et en l'occurrence, ici, on a plutôt besoin de filter not exist. Pour dire n'a pas telle propriété, en l'occurrence on cherche des éléments qui n'ont pas la propriété P2440. Et ça, on peut en mettre plusieurs, en fait. Donc, on peut filtrer, par exemple, des gens qui auraient ni la romanisation, ni la translittération avec, pour détecter vraiment des informations, des gens qui n'auraient pas toutes les informations de ni ça, ni ceci, ni ceci. Enfin, un et logique, pardon. Autre chose que vous vouliez voir, parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses avec du Sparkle.
Oui, juste dans cet exemple-là, est-ce qu'on peut savoir, par exemple, sur une langue pas donnée en français, si on n'a pas la romanisation?
Je suis pas sûr d'avoir compris.
Là, dans l'exemple choisi sur le chien, il n'y avait pas le nom en français. Dans les labels.
Pour le coup, c'est une requête que je fais jamais. Mais oui, je sais que c'est possible. On peut y faire. En fait, on utilise dans ces cas-là uniquement filter. Et ici, sur cette partie-là, on va demander. Donc la syntaxe, cette syntaxe-là, je ne l'ai pas en tête. Mais effectivement, tous les éléments qui n'ont pas le label avec l'élément français. Pareil, ça peut être pratique de trouver. Parce que bien souvent, quand un QAD est créé, il est créé dans une seule langue. Deux, éventuellement trois si la personne est un peu bilingue ou trilingue, mais effectivement ouais, trouver des éléments. Après il y a une façon aussi très simple, et là c'est qu'en fait vous cherchez les éléments qui vous intéressent, vous lancez la requête, vous triez par là, et vous allez à les QAD qui apparaît automatiquement quand il n'y a pas la langue que vous avez demandé. Donc la langue qui est demandée ici, ça c'est remplacé par la langue de votre navigateur, donc ici français. Et du coup, si ça existe ni en français ni en anglais, vous allez avoir le QAD ici qui apparaît. On le voit d'ailleurs ici. J'avais une autre quête où en fait on voyait vraiment Q avec le numéro en question. Mais c'est vrai que si vous voulez faire une requête complexe, il va falloir utiliser filter pour pouvoir le mettre dans le tableau, pour vraiment filtrer tous les éléments qui ne vous intéressent pas.
Oui, bonjour. J'ai une question peut-être un petit peu novice, je ne sais pas si ça va être très pertinent, mais par exemple, pour faire une requête sur des photos géolocalisées, est-ce que d'une part on peut faire des requêtes sur la géolocalisation, et d'autre part est-ce qu'on peut demander a posteriori l'anonymisation de la géolocalisation des images?
Alors, je vais répondre, je ne sais pas. Je vais juste donner quelques éléments de réponse. Il y a quelques images qui sont présentes uniquement sur Wikipédia et qui ne sont pas sur Commons. Dans ces cas-là, elles n'apparaissent pas dans Wikidata. Les éléments du coup qui sont sur Commons, il y a des informations qui sont avec des modèles. Où Commons a mis en place depuis quelques années des données structurées. Je ne sais pas si on peut les interroger avec le Endpoint Sparkle qui est présent ici. Peut-être, il faut regarder effectivement les exemples. Je vous invite à consulter les exemples et la documentation. Il y a une documentation Sparkle en français, en anglais, dans différentes langues aussi. Après, les photos géolocalisées, j'avoue, je n'ai pas creusé la question.
De toute façon, je crois que je sens que nous approchons de la fin de l'heure. Oui, il est 55, donc à moins qu'il y ait peut-être une ultime question. Hein. Sinon, je le laisse conclure.
On a parlé un petit peu des dates. On peut faire des requêtes qui sont assez simples. Ou par exemple, en fait, un sport n'était quasiment pas connu, enseigné, etc., avant 1970. Voilà, quelqu'un qui ferait partie d'un championnat d'un sport en question, on peut regarder son année de naissance par exemple, on peut trier les années de naissance et voir des trucs effectivement un peu bizarres. Par exemple, si on a juste l'information comme quoi la personne est née au 19e siècle, bah en fait, on va se rendre compte que l'information manquante, c'est la précision sur la date. Et en l'occurrence, ça va remonter comme étant que la personne est née en 1901, etc. Donc ça va être détecté facilement. Ça, c'est une requête assez simple, où en plus on a déjà des exemples avec des requêtes complexes qui existent. Après, c'est les requêtes complexes, ils utilisent un modèle, donc on peut demander toutes les inclusions de ce modèle-là. Je pense qu'il y en a plus de 3000, donc vous avez beaucoup d'exemples pour si vous voulez prendre des. En créer une, vous avez beaucoup de choses où vous pouvez adapter une requête existante pour la transformer en faire ce que vous voulez. J'ai pas beaucoup montré de code. Un petit peu difficile. J'aurais bien aimé pratiquer un petit peu plus, etc. Bon, c'est un petit. Vous êtes assez nombreux. Je vais essayer quand même de trouver un autre. Vous avez l'assistant des requêtes. Je l'ai pas montré parce que je l'aime pas trop. Il fait des requêtes qui peuvent être assez lourdes pour la base de données si vous mettez beaucoup de critères. Faut être honnête. La base de données, en fait, elle a un timeout qui est à peu près, à plus d'une minute. Donc le timeout, c'est effectivement que le serveur il arrête de vous répondre. Il vous répond, plus précisément, il coupe la connexion en vous disant c'est fini. Quand vous dépassez effectivement le temps imparti. Donc c'est pour dire si vous faites une requête qui par exemple interroge tous les êtres humains. Et avec énormément de choses compliquées informatiquement derrière, ou par exemple toutes les propriétés, et puis vous mettriez trop de détails. Chose assez importante à savoir quand même, c'est que le modèle en question, complexe contrainte, il attend item. Vous avez obligatoirement la variable item. Vous pouvez avoir d'autres variables supplémentaires, etc. Mais il faut absolument cette variable-là, cette colonne-là, qui soit présente. Et je vais peut-être finir en vous montrant un petit peu ce que ça donne. Là, on veut effectivement les gens qui ont... Alors, c'est une requête un peu bizarre, mais bon, bref. Qui porte mal son nom. Oui, des humains qui n'ont pas... pas de métier, qui n'ont pas en fait non plus l'information comme quoi ils sont atteints de gigantisme et qui font plus de 2m10. En l'occurrence, apparemment, il n'y en a que deux sur ma base de données. Peut-être, ça a peut-être été corrigé entre temps. Ok. Et en l'occurrence, 2m63, la personne, effectivement, visiblement, c'était pas un faux positif.
C'est 2,36.
2,36 ?
Oui, en
réalité,
c'est
2,36. Ok. Et du coup, pour toi, c'est quand même un faux positif.
Le 2,36, il manquait que le métier, c'est un basketteur. Et le premier, c'était un doublon.
Donc en l'occurrence, bon, j'avais pas prévu de vous montrer une requête en particulier, mais là c'est un bon exemple où des choses qui de la détection de doublons, c'est difficile à faire, difficile en plus en automatiser, et ce maillage là de requêtes, de contraintes, qu'elles soient complexes ou non, fait qu'en fait ça devient difficile d'ajouter une erreur sans qu'elle soit détectée par ces outils-là. Les unités aussi, en fait, en l'occurrence...
Je pense que sur les unités, descend surtout en bas. Là, tu vas avoir les personnes qui ont la taille de 185 mètres ou 1,85 cm. Là, je pense que niveau unité, c'est là où ça cloche le plus. Descend toute dernière section. Non, mais là ça va aller encore. Mais la toute dernière, oui. Oui, bah, vas-y, c'est quoi sa taille? Ah bah, un peu plus bas, plus haut, un peu plus haut. Plus bas.
C'est ça, c'est qu'en fait, il y a des requêtes où on est sûr que c'est pas bon, et d'autres où on a encore le bénéfice du doute, c'est que, enfin, voilà. Ça vous a plu? Est-ce que c'est ce que vous attendiez, ou vous attendiez plutôt une conf? Atelier, ça vous va?
Ok.
Je vous remercie.